D'ailleurs, on leur dit souvent que le contrôle sur le poids, il est très difficile à avoir. Hein. Tout à l'heure, Angelo, vous mentionnait des études que nous, on a menées où il y a des gens qui ont même pas perdu du tout, même pris un peu de poids sur des programmes d'intervention qui visaient pourtant la perte de poids parce que les gens, on n'a pas de contrôle sur comment notre corps va réagir, mm-hmm. comment il va s'adapter à cette restriction-là énergétique.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. Quel bonheur de reprendre une deuxième saison de ce balado Santé sans rendez-vous par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Mon nom est Joannie Fortin et c'est encore un honneur et un grand plaisir pour moi de recevoir des personnes qui vont venir discuter de différents sujets, de différentes thématiques qui seront les vedettes des prochaines heures, des prochains épisodes que vous écouterez. À notre grand plaisir, évidemment. Et aujourd'hui, on commence cette deuxième saison avec un sujet qui est extrêmement d'actualité, la santé, la nutrition. Et pour en parler, à mes côtés, j'ai une nutritionniste de formation, professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation au département d'éducation physique, Vicky Drapeau. Bonjour.
Bonjour, Joannie.
Et il est professeur titulaire au département de kinésiologie de la Faculté de médecine, Monsieur Angelo Tremblay, bienvenue.
Merci, ça me fait grand plaisir d'être ici.
Bien, merci, tout le plaisir est pour nous aussi de vous recevoir. Et tous les deux, vous êtes cofondateurs de la clinique Équilibre Santé de l'Université Laval, chercheurs également à l'IUCPQ ainsi qu'à l'INAF. Je veux d'entrée de jeu savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir votre domaine d'expertise, que ce soit la nutrition ou encore la kinésiologie.
Bien, moi, c'était très simple. Ne sachant pas trop quoi faire à la fin de mon cégep, je me suis tournée vers mes amis qui m'ont conseillé d'aller vers la nutrition puisque j'étais une passionnée. Je leur parlais souvent de nutrition, j'avais toujours des nouvelles recettes en tête. Et je suis allée dans le domaine en sachant pas trop vers quoi j'allais, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai même poursuivi aux études graduées en kinésiologie parce que l'activité physique était aussi quelque chose qui m'animait beaucoup.
Y a-t-il un sport en particulier, un sport chouchou que vous pratiquez?
La course à pied.
Ah oui? Oui. Bon. Et vous, Angelo?
Pour moi, ben, c'est l'amour du domaine. Déjà à l'adolescence et à l'âge de jeune adulte, j'étais vraiment intéressé par le bien manger, la pratique d'activité physique, la musculation, même la compétition sportive à ce moment-là. Et j'ai donc étudié dans les deux domaines, commençant par l'éducation physique et par la suite, j'ai étudié dans le domaine de l'alimentation. J'ai fait ma maîtrise en diététique, c'était le vocable à ce moment-là.
Et quel est votre sport de compétition, votre sport chouchou?
C'est la course à pied, donc c'est le marathon que j'ai poussé le plus loin qu'il m'était possible d'atteindre.
C'est impressionnant, les gens qui font des marathons. Avez-vous fait des marathons, Vicky?
De trail seulement, moi.
De trail, ben quand même, oui, ça m'impressionne. C'est pas des distances que j'ai atteintes, malgré le fait que je sois aussi passionnée de course à pied. Revenons à nos moutons, comme on dit, la nutrition et la santé. Il y a un mot qui est d'actualité et dont on va parler, évidemment, parmi tant d'autres, mais je veux commencer avec l'obésité. À quoi ça ressemble, le niveau d'obésité au Québec, chez notre clientèle, celle de 18 à 35 ans en ce moment au Québec?
Présentement, au Québec, le surplus de poids et l'obésité, qui est caractérisé là, par un indice de masse corporelle qui est au-dessus de 25 pour le surplus de poids et 30 pour l'obésité, c'est environ 60 % de la population là, qui présente un surplus de poids et l'obésité. Donc, surplus de poids et obésité qui est une caractéristique, en fait, qui n'indique pas du tout là, le risque de présenter des problèmes de santé. Là. Donc, on s'entend juste sur le mot, mm-hmm. la définition, environ 60 % de la population, avec un tiers présentant uniquement l'obésité.
Et au niveau du Canada, ça se compare avantageusement ou désavantageusement?
C'est un petit peu plus bas que la moyenne canadienne, mais ça se compare quand même, là.
Et si on se compare avec d'autres pays, par exemple les États-Unis, j'ai l'impression que c'est les champions de l'obésité et d'autres cultures dans le monde.
Oui, ils se débrouillent assez bien. Ils sont un peu plus élevés que nous. partout dans le monde, on voit de l'obésité. Et c'est pertinent de souligner qu'on voit aussi de l'obésité chez les pays en voie de développement, tellement que dans des pays qui sont de faible niveau économique, eh bien, l'obésité est une réalité qui est maintenant plus importante en termes de fraction de la population que le pourcentage de gens qui souffrent de sous-alimentation.
Est-ce que l'obésité et le surplus de poids, c'est la même chose? Est-ce que l'un est une conséquence de l'autre? Par exemple, est-ce que je peux dire que j'ai un surplus de poids, mais que je ne suis pas encore obèse? Est-ce que ça, ça se dit ou ça... Ça n'a aucun rapport.
Oui, bien, c'est un peu comme ça que les standards sont établis. Okay. L'Organisation mondiale de la santé définit l'obésité comme étant un poids corporel qui donne un indice de masse pondérale de 30 kg par mètre carré de surface corporelle, alors qu'on définit le seuil de surpoids à 25. C'est peut-être pertinent aussi de souligner que quand on utilise des indicateurs morphologiques pour estimer le risque de problèmes de santé à plusieurs endroits, y compris chez nous au Québec, on va ajouter un nouveau marqueur morphologique pour mieux apprécier le risque de problèmes de santé. C'est la circonférence de la taille qui, parce que finalement, l'accumulation de graisse au niveau abdominal, c'est la localisation qui est davantage associée au risque de problèmes de santé.
OK. Et là, tout à l'heure, vous parliez d'IMC. Là. Ça, ce fameux indice de masse corporelle, ça se calcule comment? Quelqu'un qui dit, moi, c'est quoi mon IMC? Je suis obèse? Est-ce que je suis en surplus de poids? Est-ce que je suis correcte? Comment on fait ce calcul-là? Ça prend-tu un médecin pour le faire ou n'importe qui peut?
Non, ça prend une calculatrice, à moins qu'on soit très fort en travail mental. Alors, on pèse son poids, on mesure sa taille en mètres, qu'on exprime au carré, et à ce moment-là, on va diviser le poids en kilos par la taille en mètres au carré. Donc, prenons une personne, par exemple, qui va peser 80 kilos et qui mesure 1,80 m, eh bien, son indice de masse corporelle sera 80 divisé par 1,8 multiplié par 1,8.
D'accord. Ouais. Et ce chiffre-là va être le 25, 30, oui, 18, en tout cas, peu importe là, ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est important de mentionner que c'est un indicateur qui comporte quand même plusieurs limites, et d'où l'importance là, d'ajouter des indicateurs comme le tour de taille. Donc, une des premières limites de cet indicateur-là, c'est qu'elle ne fait pas la distinction entre la masse grasse et la masse musculaire.
Okay.
Donc, il y a un paquet de jeunes hommes. Moi, j'enseigne au niveau universitaire. Un paquet de jeunes hommes que je vois tous les jours, que je croise, que je suis assez certaine qu'ils sont dans un intervalle d'IMC entre 25 et 30, et voire même plus chez des joueurs de football qui ne présentent pas d'obésité.
J'avais cet exemple-là en tête, les joueurs de football, c'est bien bâti.
Oui, même plus, mais qui ne présentent pas d'obésité en soi. Là. Donc, ça, c'est une des premières limites. D'où l'importance de toujours ajouter à cet indicateur-là un autre indicateur qui est vraiment plus associé au risque de maladie chronique, comme le tour de taille. Les travaux de notre collègue Jean-Pierre Després ont vraiment grandement contribué là, à faire avancer les connaissances à ce niveau.
Et quelqu'un qui est considéré comme une personne obèse, c'est quoi les conséquences d'une obésité chez une personne, et au-delà du surplus de poids, là, évidemment?
Bien, il y a des risques en ce qui a trait au développement de certains problèmes de santé qu'on connaît bien, le diabète notamment, des problèmes cardiovasculaires, mais il y a aussi des problèmes psycho-affectifs. Donc, les personnes qui ont un surpoids peuvent être la cible de moqueries, peuvent avoir moins de chances de trouver un emploi. Il y a des études qui montrent qu'on a moins de chances de se trouver un conjoint si on présente un surplus de poids. Une autre catégorie de problèmes, ce sont les problèmes ergonomiques. Donc, risque de chute, moins de flexibilité, moins de mobilité, Ça veut dire moins de capacité à la rigueur à jouer avec ses enfants. Ça veut dire moins de capacité à accomplir certaines tâches professionnelles. Donc, il y a des limitations qui sont imposées là, par le surplus de poids.
Et qu'est-ce qui fait qu'on devient obèse? Est-ce qu'on est victime de l'obésité? Est-ce qu'on le devient par des facteurs quelconques? Et là, je parle aussi du surplus de poids, là. Est-ce qu'on est obèse? Parce qu'il y a des gens qui naissent qui ont un poids, standard, là, toute leur jeunesse, toute leur adolescence, et à un moment donné, arrive un moment dans la vie où, pouf, il y a surplus de poids pour, c'est ça, X raisons. Pourquoi est-ce qu'il y en a, tu sais, qui sont très jeunes, obèses, et d'autres le deviennent plus tard?
En fait, l'obésité, c'est vraiment un problème qui est complexe et multifactoriel, qui comporte autant des facteurs individuels qu'environnementaux, donc des facteurs individuels incluant la génétique qui prédispose une personne à présenter un surplus de poids un peu tout au long de sa vie, mais des facteurs aussi environnementaux qui peuvent faire en sorte qu'une personne, à un certain moment de sa vie, va augmenter son poids dû à un problème de santé qu'elle vit, une médication qu'elle doit prendre, une situation très difficile qu'elle vit qui augmente beaucoup le stress. Donc, il y a un paquet de facteurs qui vont être responsables là, de l'obésité et du surplus de poids. Et c'est surtout pas juste le fait de dire la personne, elle est obèse parce qu'elle ne mange pas bien et qu'elle ne fait pas d'activité physique. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste ces deux réponses.
Par rapport à ça, au cours des dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a deux catégories d'influences qui ont un effet marquant. La première catégorie, qui fait référence à un vocable un peu sophistiqué, là, c'est le concept d'interaction génotype-environnement, mais en termes plus populaires, ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres de maintenir la stabilité pondérale. Dit autrement, à habitude d'activité physique égale, il y a des gens qui peuvent perdre du poids, il y en a qui vont maintenir, il y en a qui vont en gagner. Dans nos activités cliniques, dans le domaine de la nutrition, quand on intervient, quand la diététiste intervient en favorisant de saines habitudes alimentaires, dans une perspective d'aider au contrôle pondéral et même induire une perte de poids, bien, une femme sur sept gagne du poids. Un homme sur dix gagne du poids. Donc, c'est pas vrai que même un suivi, aussi compétent soit-il, va donner le même résultat chez tous. Et on se rend compte que le bagage génétique des individus influence la réponse à une intervention, qu'elle soit dans le domaine de la stabilité pondérale, de l'entraînement physique, etc. La deuxième chose qu'on a bien réalisée, c'est que les facteurs d'environnement qui sont responsables d'un gain de poids au fil du temps, ça va bien au-delà du bien manger et du bien bouger. Le meilleur exemple, c'est le sommeil. Aujourd'hui, on se rend compte que le temps de sommeil, la qualité du sommeil et même le timing, excusez l'anglicisme, du sommeil, ce qui rappelle ce que nos grands-mères nous disaient, que le sommeil plus tôt est plus réparateur que le sommeil tardif. Tous ces facteurs-là... On dirait que c'est vrai sur la base de certaines études récentes qui montrent que la prise alimentaire est moins élevée chez les gens qui vont au lit plus tôt que chez ceux qui se couchent tard. Au-delà des habitudes de sommeil, les habitudes de temps d'écran, qui comporte dans bien des cas, notamment dans le contexte du télétravail, des efforts cognitifs exigeants qui ont le potentiel aussi d'augmenter le désir de manger, d'augmenter la prise alimentaire. Puis c'est sans compter d'autres facteurs. On a même eu des évidences à l'effet que certains polluants chimiques qu'on stocke dans notre tissu adipeux ont le potentiel d'influencer la dépense d'énergie. Donc, comme Vicky le mentionnait, c'est multifactoriel et la réponse à ces multiples facteurs, elle est en partie influencée par l'hérédité.
Est-ce que les hommes et les femmes ont une différence aussi dans leur prise ou leur perte de poids? Est-ce que les femmes sont plus susceptibles de prendre du poids ou ce sont les hommes qui sont plus susceptibles de ça?
En fait, étant donné que c'est multifactoriel, dépendant des facteurs impliqués, c'est autant les hommes et les femmes. Nous, ce qu'on remarque en clinique, c'est qu'habituellement, les hommes, dès qu'ils adoptent un mode de vie sain et actif, vont rapidement perdre du poids, particulièrement au niveau abdominal, oui. Parce qu'il semble que c'est une graisse qui est plus facilement mobilisable ou plus... on peut la perdre plus facilement, si je peux m'exprimer
ainsi. J'ai l'impression que c'est plus les hommes aussi qui l'ont, cette graisse-là.
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Comparativement aux femmes qui, elles, en général, vont accumuler de la graisse plus au niveau des hanches, des fesses, qui est une graisse qui est importante justement pour contribuer à la reproduction chez la femme. C'est une graisse qui est aussi moins associée à des problèmes de santé, mais qui est plus difficilement mobilisable ou qui est plus difficile à perdre lorsqu'une femme adopte spontanément un mode de vie sain et actif. Donc, il y a des différences sûrement là, au niveau de la perte de poids en réponse à l'adoption de saines habitudes de vie. Là.
Donc là, ce que je comprends, oui?
Bien, les commentaires de Vicky me rappellent une expérience fascinante qui avait été réalisée par une collègue française quand elle était en stage en Suède il y a plusieurs années. Elle avait observé que la graisse des hanches et des fesses était plus mobilisable, là, c'était plus facile d'aller la chercher chez la femme à deux moments en particulier. Okay. Le troisième trimestre de la grossesse et le moment de la lactation, comme si la femme avait un dépôt spécifique visant à prendre en charge des fonctions qui sont propres à elle.
Et ça se fait naturellement ou c'est quand on veut le faire que ça peut se faire plus facilement?
Ça se fait naturellement. Ça se fait aussi... Il y a des chercheurs aussi qui ont tenté d'intervenir non naturellement sur la question. Moi, j'ai un collègue américain notamment qui, à un moment donné, avait testé des crèmes avec des agents qui stimulent la mobilisation des graisses des cuisses. Oui. Et à ce moment-là, on testait des femmes qui se massaient une cuisse avec une crème mobilisante et l'autre cuisse avec une crème placebo. On voyait qu'on favorisait une mobilisation préférentielle de la graisse de la cuisse traitée avec la crème lipolytique versus la crème placebo. Mais normalement, on parle de fonction naturelle, mais l'être humain a cette propension à vouloir manipuler la nature parfois pour influencer certains effets dans une direction particulièrement souhaitée.
Mais c'est drôle ce que vous dites parce que, bon, j'ai un bébé de 9 mois à la maison, tu sais, puis j'allaite encore. Puis c'est drôle parce que dans le troisième trimestre de ma grossesse, alors que je bougeais plus, on s'entend que je faisais plus vraiment d'activité physique, ou mon estomac me permettait pas manger tout ce que je voulais parce que c'était plus fragile, ou je pourrais dire que j'avais jamais mangé aussi mal de toute ma vie. Et là, en période d'allaitement, on dirait que naturellement, j'ai perdu le peu de graisse que j'avais au niveau des hanches et des cuisses, mais sans vouloir faire d'efforts, alors qu'avant d'être enceinte, j'essayais de maintenir un poids et tout ça en faisant certains efforts. Et là, naturellement, c'est comme si ça se faisait tout seul. Mais fait que ce que vous me dites, ça me parle beaucoup.
Oui, c'est pas une preuve béton, mais c'est bien concordant.
On dirait que ça explique beaucoup de choses. Si on est en train d'écouter ce balado-là et on se dit, bon, moi, je pense que j'ai un surplus de poids. Peut-être que j'ai un indice d'obésité quelconque. Tu sais, de ce que je comprends, c'est que c'est pas juste on change une alimentation, on se met à faire de l'activité physique. Là, on va voir qui, justement, pour entamer un mode de vie sain. Est-ce qu'on consulte un kinésiologue, notre médecin de famille, une nutritionniste? Qui peut nous aider là-dedans?
Bien, moi, je dirais que c'est un premier pas vers le changement d'habitude de vie. C'est d'aller vers des professionnels spécialisés en changement d'habitude de vie, comme les nutritionnistes, les kinésiologues. C'est vraiment des gens qui ont été formés à plusieurs niveaux dans différents types d'approches, des approches de changement de comportement, l'approche motivationnelle, qui vont accompagner la personne vers l'adoption d'un mode de vie sain et actif. Et qui va donner plusieurs trucs, stratégies, et va identifier avec la personne plusieurs trucs et stratégies, si je peux dire, pour l'aider justement à identifier qu'est-ce qui va fonctionner pour elle dans son changement de comportement. Et ça, c'est vraiment propre à chaque individu. Le suivi, cet accompagnement-là avec un professionnel est très important. Je dirais même que dans les études de prise en charge de l'obésité, c'est un des facteurs qui est prédicteur d'un meilleur maintien de poids, de perte de poids, bien qu'on ne veut pas axer sur le poids, mais cet accompagnement-là. Puis pourquoi il est un meilleur prédicteur? C'est que ça aide les gens à changer leur comportement sur un plus long terme.
Et on en parlait hors d'onde tout à l'heure. La motivation est un facteur très, très, très important, j'imagine, quand on veut adopter des habitudes de vie qui sont différentes de ce qu'on avait avant.
On a tendance à considérer cela comme un prérequis. Parce que, comme dans tout projet de différentes natures, un projet de formation professionnelle, un projet de changement d'habitude de vie. Au départ, ça va aider énormément si on est rendu dans un niveau d'engagement personnel où on est vraiment prêt à faire l'effort nécessaire pour réussir, atteindre les objectifs qui sont inhérents à ce projet-là.
Qu'est-ce qui est recommandé, on va, en termes de saines habitudes de vie pour atteindre un niveau de santé globale, un bon niveau santé globale, si on parle d'activité physique ou encore de nutrition? Tu sais, qu'est-ce qu'on recommande de faire comme activité physique? Y a-t-il un nombre de minutes par semaine qu'on doit faire? Et au niveau de la nutrition, qu'est-ce qu'on doit manger ou prioriser dans notre alimentation pour au moins se donner une chance, là? Tu sais, je ne veux pas qu'on aille dans une consultation complète, non. Mais tu sais, si on peut donner à nos auditeurs une petite base là, pour des indices.
Bien, la question est super importante, puis en fait, elle devrait toujours être la cible. Les recommandations ou les changements d'habitude de vie devraient toujours être la cible de toute intervention d'une personne qui a un surplus de poids, d'obésité associée à des problèmes de santé. C'est vraiment la base, là, donc. Et les recommandations, bien, vont tourner autour d'aliments qui vont être peu transformés. En fait, des aliments vraiment de base, là, comme des fruits et légumes, des grains entiers, qui vont contenir également des protéines, particulièrement des protéines de type végétal. Donc, c'est la présentation de l'assiette du nouveau guide alimentaire canadien. Mais ce que j'aime aussi dire aux clients qui viennent nous voir, c'est que ce n'est pas seulement ce que vous mettez dans votre assiette qui est important, c'est aussi comment vous mangez, avec qui vous mangez. Donc, tout ce qui entoure l'acte de la prise alimentaire est aussi important pour favoriser l'adoption à long terme de saines habitudes alimentaires.
Les calories, est-ce que c'est une donnée qui est comme surévaluée? Je mange ça, c'est juste 100 calories. Mais y a-t-il des meilleures calories que d'autres qu'on peut... Est-ce que compter notre nombre de calories, il me semble... C'est-tu encore d'actualité, ça? Ou on devrait pas se fier trop à des calories, mettons?
Non, on devrait pas se fier aux calories, parce que ce qu'on mange, c'est des aliments qui contiennent différents nutriments qui vont interagir entre eux, des aliments qui se présentent sous différentes formes aussi. La matrice, là, dans quoi est contenu les nutriments, vont influencer l'impact sur la santé. Donc, c'est pas juste une question de calories, c'est loin de là. Et on devrait vraiment pas mettre le focus là, sur les calories.
Fait que qu'est-ce qu'on lit, mettons? C'est quand on regarde notre indice nutritionnel, au lieu de regarder juste en haut le nombre de calories, on regarde quoi?
Bien, il faut faire un juste usage des calories.
Oui.
Parce que, comme Vicky l'a mentionné, ce qu'on recommande, ce sont des aliments sains. Donc, c'est un vieux discours, mais qui est toujours vrai, qui contiennent suffisamment de vitamines, de minéraux, de protéines, pour que le corps puisse y trouver tout ce dont il a besoin. Ça fait vieillot comme constat, Mais c'est assez surprenant de noter que, encore aujourd'hui, pour certains éléments nutritifs, l'apport est franchement inadéquat pour une bonne fraction de la population. Donc, ça demeure une recommandation importante, très importante. C'est la même chose pour l'activité physique. On recommande de bouger. Et bouger, dans la mesure où on peut en faire, on peut bien sûr viser le chiffre recommandé de 150 minutes par semaine d'activité physique modérée, mais à certaines personnes, j'aime mieux dire tout compte. Alors, tout ça, ça se mesure en calories, en calories dépensées ou en calories ingérées, mais c'est nettement préférable de songer à de saines habitudes de vie.
Qu'est-ce qu'on doit lire sur une étiquette nutritionnelle? Tu sais, bon, au-delà de la calorie, là, qui est une donnée sur laquelle il ne faut pas trop se baser, là, donc, on regarde quoi? On regarde les protéines, on regarde les sucres. Qu'est-ce qu'on doit lire et qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'étiquette?
Bon, l'étiquette nutritionnelle peut nous aider à identifier un aliment qui a une meilleure valeur nutritive qu'un autre aliment. Toutefois, l'étiquette ne dit pas tout. Si on prend, par exemple, un pain, on veut choisir un bon pain, mais on va regarder, par exemple, la teneur en fibres, la teneur en sodium. On va essayer d'avoir une bonne teneur en fibres, plus de 4 grammes, par exemple, pour deux tranches, si possible, avec plus faible teneur en sodium. Mais même si le pain rencontre ces critères-là, qui soit dit en passant, serait un très bon pain, il faut aussi regarder la liste des ingrédients. Parce qu'il se pourrait que ce pain-là ait vraiment beaucoup d'ingrédients qui ont été ajoutés par l'industrie alimentaire pour justement le rendre plus intéressant. Donc, moi, je dis toujours aux clients qui me posent la question, oui, regardez l'information nutritionnelle, mais la deuxième chose très importante, de regarder la liste des ingrédients. Et si vous voyez beaucoup d'ingrédients, mais je veux dire beaucoup d'ingrédients que vous n'avez pas dans votre garde-manger, posez-vous toujours la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur choix? Est-ce qu'il n'y aurait pas un pain qui contiendrait moins d'ingrédients? Et à la limite, si j'ai le temps et les compétences, est-ce que je ne pourrais pas le faire moi-même à la maison?
Okay.
Qui amènerait vraiment un aliment là, vraiment beaucoup moins transformé, avec une meilleure valeur nutritive, qualité nutritionnelle, c'est certain. Là. Donc, l'étiquette, oui, est intéressante, mais il ne faut pas juste s'arrêter à la valeur nutritive, les nutriments. Il faut aussi regarder la liste des ingrédients et toujours se demander, bon, est-ce qu'il y aurait un choix ou il y aurait une liste qui serait plus petite qu'un autre?
Est-ce que je pourrais le faire moi-même?
Puis à la limite, est-ce que je peux le faire moi-même? Évidemment, on ne peut pas tout cuisiner nous-mêmes.
Non,
là, le
non,
temps
c'est ça.
Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes.
Une lasagne, ça se fait tout ça se fait soi-même plutôt que de l'acheter déjà fait.
Okay. Tout à fait. Okay. Des muffins aussi, hein? Donc, il y a beaucoup de choses.
Oui.
Moi, ce que je regarde sur les étiquettes, en plus de ce que Vicky vient de décrire, ce sont ces trois éléments nutritifs qu'on nous encourage à prendre avec modération. Trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Alors, quand on a dans une portion plus que 10 % de la portion recommandée dans une journée, on a peut-être affaire à un aliment qu'on devrait consommer avec modération.
Okay.
Le pire exemple, là, c'est le jus de tomate et le jus de légumes,
hein?
Qui, en théorie, est un bon aliment santé, mais dont le contenu en sodium correspond à... Le contenu en sodium d'une portion offre 20 % de ce dont on a besoin dans une journée. Ça prend rien. Et ça, bien, c'est un nouveau facteur qu'on a associé récemment au surpoids. On vient de publier ça. La personne qui est une grande consommatrice de sodium, elle est plus à risque de surpoids pour des raisons qu'on essaie encore de bien comprendre.
Si on reste dans l'activité physique, quel genre d'activité physique on suggère? Parce que j'imagine qu'il y a une différence entre aller marcher tranquillement après le souper et... se faire un marathon ou s'entraîner en course à pied, par exemple.
Oui, c'est vrai. Puis nos recommandations d'organismes d'experts en tiennent compte. Je disais il y a un instant, 150 minutes comme étant chiffre cible, d'efforts modérés à vigoureux, à c'est ce qu'on recommande par semaine. Mais pour quelqu'un qui aurait moins de temps et qui ferait des efforts très vigoureux, on va considérer que l'équivalent, c'est à peu près 75 minutes. Okay. Ceci dit, encore une fois, tout compte. Si quelqu'un n'a de temps que pour jardiner ou promener un peu son chien, eh bien, à ce moment-là, on le fait et ce sera bien mieux que ne rien faire du tout.
Fait que faire le ménage de la maison, ça peut compter comme une activité physique, mettons, là, je dis ça.
C'est un point important que vous soulevez, hein, parce que le ménage, le lavage, l'époustage, tous les âges sont devenus des activités mal aimées de notre mode de vie. Mais c'est aussi un peu un antidote contre la sédentarité, qui est devenue tellement un problème qu'on considère aujourd'hui la sédentarité comme un problème indépendant de la pratique d'activité physique. C'est-à-dire que quelqu'un peut rencontrer les standards, les recommandations d'activité physique et malgré tout avoir un mauvais profil parce que pour le reste de la journée, il y a vraiment trop d'activités sédentaires. Donc, faut peut-être apprendre à réaimer le passer l'aspirateur puis nettoyer les plates-bandes.
Et on parle de sédentarité. Est-ce que la pandémie a eu son lot d'impact aussi sur la prise de poids, la sédentarité et tout ça? Puis, tu sais, qui dit pandémie, dit l'inflation aussi. Vous parliez d'aliments sains, des fruits, des légumes qui coûtent une fortune ces temps-ci. Ça aussi, c'est difficile, tu sais, de se dire « je vais bien m'alimenter », mais ça coûte cher. Alors que des aliments transformés coûtent pour la plupart beaucoup moins cher qu'un chou-fleur, par exemple.
Oui, la pandémie a eu son effet sur les habitudes de vie et donc sur le poids, autant chez les adultes que les enfants. Il y a quelques études qui démontrent là, que ça a eu un effet pour augmenter le poids. Mm-hmm. Puis c'est pas surprenant, la pandémie a fait en sorte que plusieurs jeunes se sont retrouvés du jour au lendemain avec... plus de sport à l'école, plus d'endroits nécessairement pour bouger entre amis, les adultes, la même chose, et le coût des aliments qui a augmenté a fait en sorte que les habitudes de vie ont changé, puis ça a eu une répercussion. Il y a eu aussi le stress que ça a pu engendrer, qui a influencé les comportements alimentaires de beaucoup de gens, incluant les adolescents, et on en a entendu parler beaucoup, qui a pu jouer également là, sur la prise pondérale durant la pandémie.
J'imagine que ça prend de la patience aussi quand on veut atteindre un nouveau mode de vie, un mode de vie plus sain. Tu sais, quand on parle de la culture des régimes en ce moment qui te promet qu'en 30 jours, tu vas perdre, 30 livres, c'est un exemple. L'adoption de saines habitudes de vie, c'est plus long que ça. Est-ce qu'on a des fois cette espèce de tiraillement entre la méthode un petit peu plus dite facile du régime / la patience d'intégrer de saines habitudes? Le voyez-vous, ça?
Ben oui, on le voit. On le voit dans notre domaine, mais on le voit dans le domaine économique aussi. On voit combien de gens qui sont intéressés de faire de l'argent rapidement avec leurs actions et qui font de mauvais choix. On a une belle expression populaire québécoise qui dit que « qui trop étreint mal embrasse ». Alors, il faut à un moment donné avoir un brin de patience et mettre en place de bons changements stable, dans la bonne direction, et au fil du temps, ça vient à payer. Et ça donne des retombées qui sont plus durables que le succès momentané qui vient trop vite, puis qui vient parfois tellement vite que le corps n'a pas la capacité de s'en accommoder. Donc, autre expression populaire québécoise, chasser le naturel et il revient au galop.
Parce qu'on est dans dans tous les aspects de notre vie maintenant, c'est de la consommation rapide, c'est des résultats rapides. Comment on peut faire pour aller encore plus vite? Fait qu'au niveau des saines habitudes de vie, c'est j'imagine, difficile d'accepter d'être patient. Et là, quand on parle des différentes diètes, régimes, keto, j'embarque même le véganisme là-dedans, jeûne intermittent qui donne des résultats, de ce que j'entends, rapides. Peut-être qu'en clinique, avez-vous ce genre de discours-là avec vos patients?
Tout à fait. Les gens viennent nous voir et ils ont souvent en tête un type d'alimentation qu'ils ont en tête parce qu'un ami, un proche l'a essayé, a perdu du poids rapidement. Donc, ils souhaitent le mettre en place, ne savent pas trop comment, ils viennent consulter. Puis là, on explique justement l'effet à long terme de ce type de régime-là parce qu'on ne se le cachera pas. C'est des régimes qui, oui, vont être efficaces pour la perte de poids chez la plupart des gens, malgré qu'il y a des gens qui peuvent être résistants. Mais à long terme, ils ne sont pas plus performants qu'un autre type d'intervention. Mm-hmm. Et même qui peuvent amener des effets néfastes plus importants au niveau des comportements alimentaires, au niveau de la relation avec la nourriture. Donc, on parle de ces aspects-là avec la personne, puis ensuite, on parle aussi des approches plus graduelles, comme l'adoption de saines habitudes de vie à long terme, l'impact que ça peut avoir à très long terme, et ce, sans nécessairement avoir un impact sur le poids corporel. Donc, tous les bénéfices que ça peut avoir au niveau métabolique, au niveau de l'énergie, au niveau de l'estime de soi, sans nécessairement changer le poids. Donc, les gens, habituellement, voient, tu sais, ils vont reconnaître d'autres personnes qui ont vu perdre et reprendre du poids, puis habituellement, les gens vont tendre vers le changement d'habitude de vie.
Et j'ajouterais que cette obsession de succès rapide et de productivité ajoute sa dose de stress sur les individus avec les risques de détresse que ça peut comporter, avec les risques de choix de certains comportements qui sont indésirables. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une attitude plutôt malsaine que les sociétés occidentales ont avec cette obsession de profitabilité, de productivité, de rendement, de performance. Ça n'aide pas. Il y a beaucoup de gens qui subissent des inconvénients à cause de ça.
Ce qui est malheureux, c'est qu'on se définit, je trouve, pas mal trop par notre poids, par la balance. T'sais. Je sais pas si c'est vous, Angelo, tout à l'heure, qui disait qu'on le gage de succès vient avec notre surplus de poids ou le fait qu'on soit mince ou qu'on ait perdu du poids, peut-être. Là. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens, justement, là, t'sais, qui sont devant vous puis qui ils disent « Moi, je veux perdre du poids parce que c'est ça qui va me rendre, c'est ça qui va me rendre heureux. » Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes-là qui voudraient peut-être atteindre un autre niveau dans leur vie ou d'acceptation? C'est un terme qu'on peut utiliser, ça, de l'acceptation pour une personne qui vit avec un surplus de poids ou de l'obésité?
Bien, je pense qu'il faut creuser un petit peu plus les raisons pour lesquelles la personne veut perdre du poids. Souvent, le poids est la cible parce qu'il est encore trop souvent la cible d'intervention et les gens vont immédiatement associer un niveau d'énergie ou une incapacité physique à leur surplus de poids, quand en fait, quand on creuse un petit peu, la personne vient nous voir parce qu'elle veut avoir plus d'énergie. La personne vient nous voir parce qu'elle veut marcher un petit peu plus longtemps. La personne vient nous voir pour différentes raisons qui ne sont pas toujours, en fait, qui sont souvent pas l'origine, n'est pas souvent le poids, et qu'on peut, à ce moment-là, leur parler de l'impact des habitudes de vie sur le niveau d'énergie, sur la capacité de marcher plus longtemps, voire même de commencer à courir quand on entreprend un programme d'activité physique et qu'on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Donc, d'aller vers ce genre de discours-là, d'aller rechercher les vraies raisons pourquoi la personne vient nous voir, d'essayer de connaître des raisons qui sont autres que la perte de poids, va inciter la personne et de montrer que les habitudes de vie peuvent avoir un effet, va inciter souvent la personne à enlever ce focus-là sur le poids. Là. D'ailleurs, on leur dit souvent que le contrôle sur le poids, il est très difficile à avoir. Hein. Tout à l'heure, Angelo, vous mentionnait des études que nous, on a menées où il y a des gens qui ont même pas perdu du tout, même pris un peu de poids sur des programmes d'intervention qui visaient pourtant la perte de poids parce que les gens, on n'a pas de contrôle sur comment notre corps va réagir, mm-hmm. comment il va s'adapter à cette restriction-là énergétique. Donc, il faut comprendre faut que les gens comprennent qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur poids, qu'ils peuvent à tout de moins tenter de changer leurs habitudes de vie. Il y a des choses qu'on a moins de contrôle, mais celles sur lesquelles on pense qu'on peut avoir plus de contrôle, d'essayer d'aller vers cette voie-là.
Moi, j'ajouterais spontanément que il faut absolument écouter ce type de message-là, parce que à défaut là de l'écouter, on peut avoir un effet contre-productif. Il y a de ces histoires assez célèbres dans la littérature scientifique, notamment l'expérience de la compétition américaine des weight loss losers, les weight losers.
Les biggest losers, oui, c'est ça.
Oui, alors oui. Qu'il y a notre pendant québécois, c'est qu'hyper gagne, oui. Qui font que finalement, on se rend compte que quand on fait de... ce qu'on pourrait appeler de l'acharnement thérapeutique, le corps va surréagir et la conséquence va faire en sorte qu'on va regagner du poids, on va déstabiliser le contrôle de la dépense d'énergie et ça ne sera que plus difficile subséquemment de contrôler le poids corporel. Donc, il faut à un moment donné écouter, être à l'écoute de ce que le corps nous permet et faire les changements adéquats pour maintenir ce qu'on a atteint, même si ça peut être en deçà de ce à quoi on pourrait rêver.
Quand on parle de génétique, si on creuse là, un petit peu plus loin que ce dont on vient de parler, qu'est-ce qui fait qu'une personne... va avoir plus de difficultés à perdre du poids qu'une autre personne. Tu sais, il y en a qui disent, moi, je regarde un pot de crème glacée puis je prends 10 livres. Puis il y en a qui vivent un petit moment de stress puis ils fondent à vue d'œil. Je veux dire, on est-tu dans... Qu'est-ce qui fait dans le corps que ces personnes-là sont si différentes, par exemple?
Bien, je pense que vous avez donné le mot-clé, hein? Creuser.
Ouais.
Alors, on a des études de population qui ont montré des effets génétiques sur le poids corporel, sur la quantité de graisse corporelle. On a des études d'intervention qui montrent que certaines personnes sont plus à risque d'avoir des problèmes que d'autres pour des raisons génétiques. Mais une fois qu'on a dit ça, la question qu'on se pose, c'est celle que vous posez. Qu'est-ce qui fait en sorte? Donc, on fouille dans le bagage génétique des individus au travers de millions de marqueurs génétiques pour essayer de trouver des variants, des sites de différences génétiques qui auraient le potentiel de s'associer à un risque accru d'accumuler, par exemple, de la graisse corporelle. C'est pas nécessairement facile, mais c'est devenu plus facile à partir du moment où l'entièreté du génome humain a été caractérisée. Donc, on a ça maintenant depuis un certain nombre d'années. On n'a pas beaucoup de marqueurs génétiques en qui on a confiance, mais on en a un qui est la variation génétique au niveau du récepteur. Puis là, j'utilise un grand mot, du récepteur aux glucocorticoïdes. Ce sont des hormones de stress. Puis un récepteur, c'est quoi? C'est comme la serrure de votre porte à la maison. Alors, ça va recevoir le message d'une hormone, puis ça va initier une réponse. Bien, on voit de la variation génétique là-dessus, et particulièrement chez la femme, quand on a tel variant génétique versus tel autre, eh bien, on a observé notamment que sur un suivi de 12 ans, celle qui avait le branchon du chromosome le plus lourd, là, elle gagne plus que le double de poids au fil du temps. Donc, on creuse, on essaie de creuser, on essaie de comprendre et il y a
on n'a pas toutes les réponses en ce moment-là.
On n'est pas prêt de les avoir tout de suite non plus, mais c'est le grand défi de la médecine prédictive, de la médecine de précision qui vise à individualiser la prescription. Quand on va connaître, quand on va connaître le bagage, on aura assez de marqueurs génétiques. On sera peut-être capable de reconnaître qui est à risque, qui ne l'est pas, qui va être un bon répondeur à une intervention, qui ne le sera pas. Il y aura un gain pour la médecine, mais il y aura d'autres enjeux sociaux qui vont se poser. Je ne suis pas sûr que tout le monde va aimer que l'assureur connaisse exactement quel est le profil du génome de chacun.
J'avoue, dans cette optique-là, c'est certain. Une chose en amène une autre.
Une chose en amène une autre.
c'est la question qui est la plus redoutée, en tout cas, des intervenants de notre première saison. Je ne sais pas pour vous, la dernière question de chaque épisode, étant donné que le balado s'appelle Santé sans rendez-vous. Si vous aviez à prendre rendez-vous avec n'importe qui, n'importe quoi, un personnage fictif, un personnage vivant, un personnage qui est décédé aujourd'hui, ce serait qui? Vicky, à vous bon, l'honneur.
Moi, je suis allée plus dans quelque chose de rationnel, possible, et peut-être qu'il est même à l'écoute. Moi, j'irais avec le nouveau maire, Bruno Marchand. Hein? Moi, j'aimerais ça le rencontrer. En fait, je le suis. J'admire beaucoup ce qu'il est, la façon, ses valeurs, ce qu'il met en place dans la ville de Québec. Je pense qu'il va contribuer beaucoup à améliorer l'environnement et favoriser des environnements qui facilitent l'adhésion à des choix alimentaires sains, mais aussi à la pratique d'activité physique. Donc, c'est ça. J'aimerais m'entretenir avec lui pour
c'est
ça.
C'est un très bon coureur. Donc,
en
tu pourrais
plus,
même le rencontrer
même faire
en courant.
Je pourrais même faire un petit running meeting avec lui. C'est une invitation.
Bon, le message est lancé. Et vous, Angelo?
Ah ben moi, ça a été sans hésiter quand on m'a adressé la question à l'avance, ce serait le ministre de la Santé, chez qui je souhaiterais un peu plus d'ouverture afin de voir davantage de médecine préventive dans les activités des groupes de médecine familiale. Plus de professionnels comme des nutritionnistes, des kinésiologues qui contribuent à la promotion de saines habitudes de vie, qui contribue à la prévention et peut-être avec le résultat de faire une pierre deux coups, parce que la présence de ces professionnels de la santé-là dans le giron des GMF aurait peut-être le potentiel de soulager le médecin dans l'exécution de certaines tâches.
Il s'appelle Angelo Tremblay, elle s'appelle Vicky Drapeau. Ils étaient nos intervenants aujourd'hui dans ce premier épisode de la deuxième saison du Balado. Merci à vous deux, ce fut un plaisir de m'entretenir avec vous.
Merci.
Merci à vous.